commence peut-être par situer les choses, par contextualiser un petit peu. On est là où on est en fait, hein, ça commence par là aussi, quoi. Moi je suis insulaire, je suis né à Madagascar, juste au bord de la rade de Tamatave, qui est une plage historique de pirates en réalité. Et donc j'ai grandi à La Réunion par la suite, et voilà, moi quand j'étais petit, on t'en a parlé un petit peu, Simon, c'est la Buse, le fameux pirate qui a écumé l'océan Indien pendant un bon petit moment, qui est surtout célèbre à cause d'un trésor qu'il a laissé sur l'île. Donc voilà, la fameuse histoire d'un cryptogramme qu'il aurait déchiré en allant à la potence, qu'il aurait jeté dans la foule. Et voilà, donc les histoires de ce type-là, évidemment, on en parle souvent. La Buse, c'est un pirate breton en réalité. La Buse, on l'appelle comme ça parce qu'il avait la réputation d'être super rapace. Et que voilà, c'est le pirate qui fondait sur tout ce qui bougeait, quoi, femmes, or, etc. Il était capable d'attaquer plusieurs navires avec son seul bateau à lui. Il avait un super équipage. Enfin, voilà, c'était vraiment une brute sanguinaire. Et puis c'est vrai que moi, c'est un personnage qui m'a souvent fasciné. Mais à la limite, l'image des pirates que je retiens le plus, moi, c'est celle d'Astérix, en fait. C'est Astérix et Obélix, c'est les pirates qui sont médusés sur leur bateau. Mais bon, ça, à la limite, ce sont des points de départ, c'est des embrayeurs. Un autre embrayeur qui est important, là, quand j'ai commencé à réfléchir à cette histoire de piraterie, c'est un ami à moi qui s'appelle Jean-Paul Curnier. C'est un philosophe artiste, a été un élève de Deleuze. C'est un monsieur qui entre tout doucement dans le troisième âge. J'ai rencontré aux Beaux-Arts il y a pas mal d'années de ça, et je l'ai revu il y a quelques temps. À une période où il réfléchissait aux abeilles, en fait, il observait beaucoup les abeilles. Et il avait commencé à réfléchir à partir de là, à la question de la démocratie. Voilà, on a tous été fascinés par les sociétés d'insectes, hein, de voir la pertinence d'organisation qu'ils peuvent avoir, y compris au niveau architectural, enfin, au niveau de l'organisation sociale, c'est toujours fascinant. Donc il avait commencé à réfléchir à la piraterie, non, pardon, pas encore. Il avait commencé à réfléchir à la démocratie à partir des abeilles. Et petit à petit, ça l'a amené, d'une manière ou d'une autre, à se renseigner de plus en plus, justement, sur la question démocratique. Parce que bon, c'est vrai qu'on vit dans une époque qui nous force à nous poser la question de plus en plus. Bon, je ne vais pas faire la leçon là-dessus. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui l'a vraiment de plus en plus titillé. Et voilà, en faisant des recherches, il s'est rendu notamment sur le terrain un peu historique au tout départ de la piraterie. C'est un philosophe de formation, donc. Il a beaucoup étudié, voilà, par exemple, les démocraties athéniennes. Il a commencé à réfléchir à la façon dont ça fonctionnait. Et voilà, essayer de mettre en crise le système qu'on expérimente tous et dont on sait tous en réalité qu'il fonctionne le plus mal possible, quoi. C'est déjà une vieille parole, quoi. Churchill, Aristote disaient déjà la même chose de la démocratie. C'est le meilleur, mais c'est le pire. Enfin, bon, voilà, ça fonctionne pas, quoi. Et on le voit. Et voilà, c'est ce monsieur-là qui, en me parlant de toutes ces choses-là, voilà, du rapport entre les abeilles, les Grecs, les pirates, la démocratie, voilà, ça commençait à beaucoup m'intéresser. Mais évidemment, ça m'a intéressé sur un tout autre point de vue, puisque je suis pas du tout de la même génération que lui, que j'ai d'autres choses en ligne de mire, on va dire. Et pour le dire assez rapidement, en fait, ce qui m'a intéressé assez radicalement, c'est d'arriver à faire le lien qui était très facile a priori à faire entre les pirates historiques tels qu'on en a le cliché, voilà, hop, l'image d'Épinal, du pirate avec son bandeau noir, enfin le pirate des Caraïbes, quoi, et les appellations diverses qu'on peut donner aujourd'hui aux pirates, et évidemment surtout dans le domaine informatique. Voilà, c'est vraiment ce lien, ce pont-là qui m'a intéressé, c'est de réfléchir à ce qui s'était transformé entre les pirates des temps jadis qui ont fasciné, qui ont complètement emprunté toutes nos histoires, nos romans, etc. Et ce qui se passe aujourd'hui. Et notamment, ce qui se passe aujourd'hui, c'est, voilà, je retiens des choses très, très concrètes. C'est par exemple des personnages, des personnalités et leurs actions, surtout comme Edward Snowden. Comme Julian Assange, voilà, comme des gens comme ça, donc que moi très personnellement j'ai tendance à considérer comme de vrais pirates. Alors, je disais, voilà, ce lien il était a priori facile à faire, donc tout simplement parce que ne serait-ce qu'on a ce vocable-là qui reste, quand bien même c'est pas facile de discerner les choses non plus, parce que voilà, quand on regarde par exemple le mot pirate ou piraterie dans le dictionnaire, donc on a le côté historique, etc. Donc voilà, du pirate qui jalonnait les mers pour aborder d'autres navires et piller leurs richesses. Mais on a aussi le versant super super péjoratif, de l'escroquerie, de la piraterie en tant qu'escroquerie, etc., etc. Donc, au-delà justement de cette translation du mot du 18e siècle à nos jours, on va dire, voilà, qui a priori conserve la même tonalité, on sait bien que voilà, quand on considère par exemple ailleurs que dans le piratage informatique, les pirates déserts, ou alors les pirates modernes qu'il y a sur les mers en Somalie, ou encore dans les mers de Chine, voilà, évidemment, il s'agit bah, d'actes criminels, très explicitement. La piraterie, je l'exprimerais comme ça aussi, peut-être, pas en termes de définition, mais j'aime en tout cas rapprocher la notion de piraterie des notions très très fortes de liberté et de fraternité. Voilà, on sait par exemple que les pirates avaient un code, ils avaient leur fameux code pirate qui était un vrai code d'honneur, qui avait de vrais codes de partage, que contrairement voilà, aux images d'Épinal, encore une fois qu'on peut en avoir, ben on n'est pas forcément devant des barbares sans foi ni loi qui voilà, trucident à tort et à travers. Alors, ils trucidaient certes, mais ils ne le faisaient jamais à tort et à travers. Voilà, leur barbarie était extrêmement organisée, leur mode de vie même était extrêmement organisé. Par exemple, on a une démocratie, voilà, une démocratie pirate, elle s'est appelée comme ça dès l'origine, une démocratie pirate qui s'est élevée, qui s'est montée à Madagascar, a priori au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, quand on va par exemple à Digos-Suarez, tout au nord de Madagascar, qui était donc a priori le lieu, enfin le lieu où se serait implantée cette démocratie-là, enfin en tout cas aux alentours. Il y a plein d'endroits, il y a plein de bars, de restaurants, y compris les bars à putes, qui s'appellent le Libertalia par exemple. Et c'est effectivement un lieu, alors il est à moitié légendaire, il est à moitié mythique. Son existence est rapportée dans un ouvrage qui a été écrit en fait par Daniel Defoe, l'auteur de Robinson Crusoe, qui lui-même était un grand marin, un grand aventurier. Et il a été écrit sous pseudonyme, donc c'est ça aussi qui jette le trouble sur la réelle existence de cette démocratie-là. Mais il aurait été fondé, si je me souviens bien, par un capitaine français et un moine défroqué italien, qui étaient donc des pirates qui avaient écumé l'océan Indien pendant longtemps et qui, au bout d'un certain temps, ont décidé d'établir une communauté pirate. Donc qui se serait monté donc voilà tout au nord de Madagascar et qui était voilà une démocratie avec des codes de liberté, des codes c'est-à-dire de tout à la fois de jouissance et d'organisation de la vie. C'était vraiment quelque chose de complètement orgiaque. Voilà, sans enfoncer la porte des clichés, bah, bon, bah, le rhum il était là, hein, la fête était là, l'ivresse était là, la prostitution, l'érotisme, tout ça c'était là, et c'était tout à fait naturel, j'ai envie de dire. Donc voilà, cette démocratie, elle s'est montée, et c'est vrai que ça a été aussi l'un des points d'inspiration, puisque moi j'ai été amené à connaître Libertalia à travers des bars et des restaurants que je visitais, puis je demandais, voilà, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Et voilà, on m'a expliqué que cette terre-là de Madagascar était a priori, donc voilà, l'un des cœurs mythiques de cette démocratie-là. D'ailleurs, terre-là de Libertalia qui m'a amené à faire le tour vers la Maison Rouge. Parce qu'à cette époque-là, il y avait un artiste, Mathieu Briand, qui avait décidé de monter une espèce d'aventure, d'expérience pirate, donc pas très très loin de Diego Suarez, dans un archipel pas très loin de là. Donc voilà, il était sur une île et il avait décidé de monter toute une expérience là-dessus. Donc j'avais, par différents biais, été amené à entrer en contact avec cette personne-là et avec les gens de la Maison Rouge. Donc j'avais prononcé une conférence sur la notion de piraterie. Ah oui, alors je crois que ça aussi c'est un des backgrounds. Bon, c'est tout à l'envers bien évidemment, mais c'est quand c'est à l'envers que c'est dans l'ordre en fait. Un des backgrounds qui est important aussi pour éclairer la façon dont je me suis intéressé à cette notion de piraterie, c'est que je me suis retrouvé à coquiner à la Maison Rouge grâce à un collectif d'amis, un collectif d'artistes auquel je me suis joint pendant quelque temps, et qui ont eu pour travail pendant un certain nombre d'années de pirater des institutions. Donc c'était des pirates, c'était des artistes. Alors je ne vais pas les raccrocher au mouvement conceptuel parce que ce serait trop un raccourci, mais ce sont des artistes qui opèrent dans des champs extrêmes eux aussi. C'est-à-dire que pour la plupart, en fait, ce sont des artistes qui n'exposent pas, c'est des artistes qui sont sans galerie, ce sont des artistes qui sont sans œuvre, sans spectateur, etc. Enfin, c'est une extrémité vraiment complètement radicale voilà, de leur art. Et voilà, leur travail pendant un moment, ça a été ça a été de pirater des institutions qui ont connu par le passé une certaine renommée, qui ont été abandonnées, dont les noms ont très souvent été laissés libres de droit, et qu'ils ont réinvesti avec des contenus nouveaux, qu'ils ont réactivés. Et là, j'ai trouvé effectivement que c'était des modalités de pratique en art qui étaient extrêmement intéressantes également. Parce que là, ça va peut-être rejoindre un tout petit peu ce que j'avais essayé d'annoncer tout à l'heure par rapport à la question du pirate informatique, mais pas tant du pirate informatique finalement, c'est-à-dire du hacker, que du pirate informationnel. Voilà, je distinguerais à la limite le pirate informatique, c'est-à-dire voilà, le hacker, le cracker, celui qui va s'introduire voilà, dans tel ou tel gros réseau pour le déglinguer, là aussi, pour voilà, en faire sortir de l'information, comme l'ont fait Julian Assange ou Edward Snowden. Mais voilà, du coup, ces amis qui en fait sont ceux qui avaient récupéré par exemple la Biennale de Paris, donc montée par André Malraux dans les années 60, tombé en désuétude, complètement abandonné, et qui dont le nom était resté libre de droit, et qui a été réinvesti par ces artistes-là pendant un certain nombre d'années, avec des contenus, alors là, ici aussi complètement nouveaux, hein, rien à voir avec les contenus de l'époque. Et j'ai trouvé ces façons de procéder voilà, vraiment extrêmement intéressantes, hein, de voir ces coquilles vides, ces espèces de bateaux fantômes qui voguent voilà, sur les flots de la culture. Et de les réinvestir comme ça avec ce qu'on a envie d'y mettre, tout simplement, hein, puisque à partir du moment où ces bateaux-là existent, bon, voilà, les réhabiliter, on fait un relooking extrême et puis on y va. Hein. Et voilà, ça, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Donc, bah, j'ai été pirate, moi, sur ce navire-là pendant quelques années. Alors, ce sont aussi ceux qui, par exemple, ont récupéré l'Institut des hautes études en art plastique, donc l'IHEAP, qui avait été monté là, par Pontus Ultène. À la demande de Jacques Chirac, alors maire de Paris, qui de la même façon a duré quelques années, donc a plus ou moins flamboyé et tombé là aussi, parce que c'était un gouffre financier terrible pour la ville de Paris, alors qu'il y avait un énorme budget, c'était assez colossal. Voilà, la piraterie, elle est née de façon très simple, à partir du moment où il y a eu des richesses sur la mer, hop, on a commencé à les capter, c'était très très simple. Donc voilà, ça a commencé en Méditerranée, plus ou moins pendant l'Antiquité, ça s'est poursuivi sur les mers Atlantiques et ensuite dans l'océan Indien, c'est poursuivi partout, encore aujourd'hui. Donc voilà, on est passé d'une piraterie maritime, donc voilà, qui a lieu sur l'eau, sur les flots, au niveau des pirates informatiques, à un autre type de piraterie qui est une piraterie donc informationnelle, comme je l'ai dit, et qui passe cette fois-ci par les flux. Voilà, donc chaque grand empire a su domestiquer le monde en mettant en place des flux. Donc voilà, les Anglais ont complètement domestiqué les océans, les Romains avaient complètement domestiqué la terre en construisant des routes. Aujourd'hui, bah, Google, etc., ont complètement domestiqué le monde en mettant en place des flux informationnels qui parcourent le monde. Et du coup, pour relier ça à la façon dont, par exemple, on travaillait Farkas et Gurita, je dirais en fait, voilà, c'est la notion d'information qui m'intéresse. C'est la notion d'information au sens des théories de l'information et de la communication. C'est-à-dire, donc voilà, tout ce qui a été la base en réalité de l'informatique. Hein. On a réussi à mettre en place les machines informatiques grâce au codage de l'information sous forme binaire, 0, 1, etc. Mais au-delà de cette définition purement informationnelle, c'est-à-dire enfermée dans les théories de la communication et de l'information, on peut aussi revoir au-dessus de la couche d'information ce qui fait le savoir. J'aime bien donner cette définition de savoir, c'est-à-dire que le savoir, c'est une information plus une saveur. Hein, les mots savoir et saveur ont la même étymologie, ça veut dire exactement la même chose. Hein, ce qui donne de la saveur aux choses, c'est le savoir aussi. Et du coup, voilà, une information, on va dire, dans sa capture froide informationnelle, c'est effectivement c'est une mesure physique. Donc voilà, c'est tant de bits qui passent dans une ligne de communication. Mais quand on rajoute à l'information la saveur, c'est-à-dire bah, tout simplement la façon dont chaque être humain s'approprie le monde, ses sensations, voilà, ses phénomènes intellectuels, etc. Voilà, là, à partir du moment où cette saveur de l'humain, elle s'agrippe sur la quantité, donc y a un savoir qui se crée. Et ce que j'ai aimé voilà, dans la façon dont la Biennale de Paris a procédé avec l'IHEAP, c'était ça, c'était en fait on était dans une pure manipulation de l'information. Donc je l'ai dit, c'était des artistes sans œuvre, sans contenu, sans exposition, ce sont des choses qu'ils refusent absolument. Par exemple, ils vont parler d'un. Voilà, ils disent qu'ils n'ont pas de spectateurs, mais en fait ils disent qu'ils ont des spectateurs d'indifférence. Voilà, des gens vont voir ce qui va se faire, mais en réalité, ce qu'ils vont faire ne va jamais se signaler en tant qu'art, ne va jamais brandir la pancarte art. Donc, il va y avoir des spectateurs, mais qui ne seront pas forcément les spectateurs de l'art. Donc voilà, on va publier un bouquin, on va faire une conférence quelque part, on va créer un workshop qui a priori ne sera pas relié à l'art quelque part. Mais ce sont des choses qui se diffusent comme ça. Et pour moi, c'est ça, ce sont absolument pas des formes. Ce sont voilà, peut-être des formes vivantes, ce sont des formes de vie, plutôt, je dirais. Ce sont des formes de vie plutôt que des formes plastiques. Et voilà, quelque chose se joue là en termes d'information, d'échange d'informations. Et évidemment, l'information n'étant rien d'autre aussi bah, qu'une autre mesure de l'énergie et de la matière qui s'échange entre les gens, quoi. Donc voilà, bah, ce sont des saveurs qui s'échangent, ce sont des idées, ce sont des mots, ce sont des concepts à un moment qui sont peut-être à même, effectivement, d'être stimulantes, tout simplement pour l'intelligence, pour la façon de goûter le monde. Voilà, donc voilà, le point focal à la fin pour moi effectivement c'est ça, c'est cette piraterie d'information. C'est comment est-ce qu'on récupère les choses, comment. Enfin, bon, j'avoue, moi, depuis que je suis petit, j'ai un esprit assez encyclopédique. Hein. Depuis que j'étais petit, je voulais déjà tout savoir sur tout. Enfin, j'ai eu des boulimies comme ça de savoir. Et tout ça, c'est des flux aussi qui sont devant nous. Et il revient qu'à chacun de nous. Là, je ne parle même pas des artistes, ou je parle de chacun des êtres humains sur cette planète qui sont capables d'entendre, de lire, de s'accaparer ces informations-là. Parce que ça fait après des Edward Snowden, ça fait des Julian Assange, ça fait des gens qui n'étaient pas du tout faits pour faire ça, qui étaient des petits mecs là. Enfin voilà quoi, Snowden il avait 27 ans, il est tombé sur des trucs, des informations qui étaient tellement extraordinaires, quand je dis ça au sens de vraiment extraordinaire, ça c'est, on tombe pas là-dessus tous les jours, et ça change la face du monde, et effectivement ça continue à le changer. Et voilà, quand on tombe, qu'on est capable de capter ça, hein, cette information-là, qu'on est capable soi-même de se faire pirate et d'aller s'aborder un truc comme ça, je trouve ça génial, ouais. Et là, pour moi, c'est un vrai pirate, un vrai terrorisme, et dans le sens noble que j'ai envie de voir là. Voilà.